talmudique. Michel Nedjar, Jean-Michel Bohour, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. Michel Nedjar, l'exposition qui vous est consacrée s'intitule « Présence » au pluriel et se tient au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 23 octobre prochain. Une exposition qui se déploie en deux espaces du musée, nous l'avons dit la semaine dernière. Tout d'abord dans cette belle salle voûtée, grotte des origines que nous avions évoquée, où l'on peut découvrir un aspect de votre travail sur papier, et un second espace, au cœur de la collection permanente, dans la salle du Duc, ce sont les poupées Pourim. Tout un carnaval de poupées, écrit Nathalie Azan-Brunet, commissaire d'exposition, poupées drôles, déglinguées, fragiles, colorées, fabriquées avec des pots de yaourt, des pots de pétard, du papier d'alu, bout de ficelle, vieux chiffon, poupées assemblées, cousues, collées, poupées joyeuses qui racontent l'histoire de Pourim, mais surtout de leur créateur, de l'artiste Michel Nedjar. Chaque poupée a un nom et on le voit bien dans le livre qui accompagne l'exposition, un petit livre qui s'appelle justement « Poupée Pourim » et publié aux éditions Gallimard. On voit Mardochée à cheval, enfant d'éléphant, oiseau, corsaire, bête à roue, chien du désert, fils d'Aman, reine de la nuit, petit cheval, sentinelle, moto-cheval, confident, roi Assuérus, reine Esther et d'autres personnages encore. En regardant ces poupées, lors de ma visite au musée, j'ai entendu le son d'un violon. Et m'est revenu en mémoire la musique de Train de vie, un film de Radu Mihailenu, une musique composée par Goran Bregovic. Pour échapper à la déportation, tout un shtetl met en scène sa propre déportation. La moitié du village se déguisant en déporté et la seconde en nazi. À bord d'un train, il sillonne l'Europe à feu et à sang, croisant de vrais nazis qui les laissent passer, les prenant pour un convoi en route vers Auschwitz, croisant aussi de vrais tziganes qui les prennent pour de vrais juifs déguisés en nazis, avec qui ils partagent une nuit de chant et de danse, déguisement, inversion et réinversion, permettant d'accéder à la rédemption. Et je me suis demandé, Michel Nedjar, si les poupées Pourim ne construisaient pas aussi cette inversion, cette conjuration du sort, comme l'est l'histoire de Pourim, inversion du mal en bien et de la mort en vie. Michel Nedjar.
Je remercierai jamais assez Nathalie Azan qui m'a fait cette commande, qui est venue me voir pour me demander de faire des poupées de Pourim. Et vraiment, vraiment grâce à elle, vraiment c'était une belle rencontre. C'est sans arrêt que des belles rencontres. Et je n'ai que des belles rencontres dans mon existence. Et ça, c'est vraiment fantastique. Nathalie Azan vient me voir pour que elle me propose de faire des poupées de Pourim. Pourim, je savais pas trop ce que c'était, je savais que c'était un carnaval. Elle m'explique, elle m'emmène à la bibliothèque du Maj pour montrer des images de Pourim. Une image qui m'avait beaucoup fasciné, des déportés, un groupe de déportés, des déplacés, grimés en éclair. Ça, je me dis, mais c'est incroyable, c'est vraiment... J'en revenais pas. Et elle m'a expliqué un peu la fête d'Esther, de Pourim, et pourquoi encore un génocide qui n'a pas eu lieu grâce à Esther. Et elle m'a expliqué, voilà. Puis elle me dit, je te laisse le libre cours à ta création. Mais elle me dit, surtout pas les poupées sombres, c'est pour les enfants.
Alors, il faut expliquer que dans votre parcours, il y a toute une période de poupées sombres, et voire très très sombres, qui font presque peur, dont on voit d'ailleurs deux exemples, qui sont comme des masques ou des poupées vaudou. Et puis tout à coup, à partir des années 2000, et 2005 avec ces poupées pourries, on passe d'une certaine manière de l'obscurité à la lumière. Vous nous avez expliqué la semaine dernière que la poupée est quelque chose que vous travaillez depuis votre enfance. Vous avez rencontré la poupée très jeune, je crois, et j'aimerais que vous nous en disiez aussi un mot. Mais tout à coup, en 2005, avec cette poupée pourrie, il y a une sorte de transformation. Michel Nedjar.
1961, ma mère nous appelle ses enfants. 1961, il n'y avait qu'une chaîne en noir et blanc. Elle nous appelle et elle nous dit « Venez voir ce qu'on a fait aux Juifs ». J'avais entendu des récits, parce que j'ai eu deux tantes qui sont rentrées des camps. Mais j'ai entendu, c'était des mots, c'était pas des images. Et quand j'ai vu Nuit et brouillard en 1961, je dis qu'il y a eu un avant, l'Éden, et il y a un après, l'enfer. C'est qu'avec Nuit et brouillard, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, on voit une pelleteuse, une benne, pousser tous ces cadavres dans la fosse. Et moi, je me suis identifié à ces cadavres et je suis tombé dans la fosse. Donc en moi, j'avais tous ces millions de morts. En plus, révélation, je suis juif et on peut me tuer parce que je suis juif. Donc, c'était pas douloureux. J'étais complètement abasourdi. Et un malheur est tombé sur moi. Et l'expérience des poupées de Pourim, et grâce à Nathalie Hazan, c'est comme si quelqu'un m'aidait à sortir de la fosse. Comme vous dites, avant, je faisais des poupées très sombres. Je parle de la Shoah, mais attention, je dis aussi que ce n'est pas que la Shoah, les poupées. C'est l'enfance, les poupées que j'ai vues, je voyage beaucoup, mais les poupées aussi que j'ai vues en Amérique du Sud, les poupées du vaudou, tout ce qui est poupée m'intéresse. Et tout peut devenir poupée. Et grâce à Nathalie Hazan, grâce à cette commande, elle m'a pris la main. Et je pense, et je sais, et je sens qu'elle m'a sorti de la fosse. Parce que mon travail a pris tout à fait un autre sens. Maintenant, on revoit les coutures. Elles ne sont plus teintes, foncées. Elles ne sont plus sombres. Et c'est quelque chose d'autre.
Jean-Michel Beaubourg, je rappelle que vous êtes spécialiste de cinéma, historien d'art et conservateur en chef du musée d'art moderne de Paris, du centre Beaubourg, et l'un des meilleurs connaisseurs aujourd'hui de l'œuvre de Michel Nedjar, à qui vous consacrez d'ailleurs bientôt une exposition au LAM, musée d'art moderne de Lille. Comment, vous qui connaissez bien le travail de Michel Nedjar et dont la réception n'a peut-être pas été d'emblée à l'aune de la culture juive ou à l'aune de la Shoah, comment comprenez-vous ces poupées pourrim? Comment s'inscrivent-elles dans l'histoire de l'art, dont on a l'impression que cette œuvre en coud aussi certains moments pour les rassembler à la fois dans le cadre d'une tradition artistique et en dessine en même temps quelque chose de nouveau et de totalement original? Jean-Michel Beaubourg.
C'est une question assez complexe. Avec l'initiative de Nathalie Hazan, elle a forcé d'une certaine manière Michel à inverser, à faire Pourim lui-même. C'est-à-dire que ses poupées ont fait Pourim, elles étaient sombres, elles étaient faites simplement de chiffons, de vieux chiffons macérés dans du sang, de la boue, des matériaux comme ça extrêmement organiques. Et soudain, elles deviennent effectivement des morceaux de tissu très, très colorés, très lumineux. Et soudain, ce qui était des spectres, ce qui était justement ce qui hantait Michel, c'est-à-dire après Nuit et brouillard, c'est disparu, ces montagnes de cadavres, de squelettes, qui qu'il essayait de représenter avec ses poupées qu'il appelait des chairs d'âme. D'ailleurs, le mot mériterait attention. Eh bien, soudain, deviennent des poupées de lumière. Il faut dire peut-être qu'entre les deux, il y a eu aussi la danse macabre. Il y a aussi d'autres expériences. Même si la danse macabre est encore dans le registre, évidemment, extrêmement sombre. Mais sans doute aussi la danse macabre qu'il fait avec Alan Weiss, hein, qui lui permet justement de faire ce basculement de Pourim, d'aversion complètement des choses. Et puis, mais ça fera l'objet sans doute d'une autre émission. Un jour, on parlera aussi des poupées de lumière et du cinéma, de son travail au travers du cinéma, où là, il y a aussi déjà une inversion avec le retour à la lumière.
Parce que vous êtes rencontré il y a 40 ans autour du cinéma.
Oui, moi, j'ai connu Michel à l'époque où j'étais conservateur pour le cinéma à Pompidou. J'ai acheté ses premiers films. Je l'ai connu donc à l'époque où il était très proche d'un cinéaste mexicain, Théo Hernandez, avec qui il y a eu tout un échange. Enfin, Théo Hernandez a été non seulement l'ami, le compagnon, l'amant, mais ça a été aussi celui qui a réparé Michel, qui était totalement rétif à l'enseignement. C'est Théo Hernandez qui va l'amener à la lecture, l'écriture, et aujourd'hui chez Michel Nedjar, vous pouvez trouver un livre d'Emmanuel Lévinas. Donc il y a eu là aussi une réparation extraordinaire autour de cette rencontre. Du coup, j'ai perdu le fil, pardon.
Non, vous avez dit qu'un jour, on parlera de ce passage à la lumière, de ce retour à la lumière du film. Et donc, il y a véritablement, dans cette œuvre, quelque chose de ce retournement, de cette réinversion de la mort vers la vie, qu'on a bien senti dans ce début de film que j'ai évoqué au début.
Oui. Je peux juste ajouter une chose. La poupée, c'est... alors surtout, les poupées à partir de Pourim, ou les poupées dites de voyage, qui sont des choses qu'il collecte au moment de voyage. En fait, c'est un axe. C'est un axe autour duquel on commence à... C'est une construction, finalement, très archaïque à partir d'un axe. Et on construit quelque chose. Et on répare comme ça. Alors que les chairs d'âme sont les choses qui sont malaxées, c'est la matière, c'est encore là. Il y a encore beaucoup de souffrance finalement dans les matériaux et dans la manière de les sculpter, de leur donner la forme des yeux, des orbites, du corps. On est encore dans quelque chose de souffreteux d'une certaine manière. Alors que après, finalement, on est dans une construction très aérienne autour d'un axe.
Michel Nedjar.
Oui, je disais, d'abord je n'employais pas le mot création, quand je parlais de mes poupées, de la fabrication et la confection de mes poupées, je disais j'exhume quelque chose, je ne sais pas trop hein, cette chose, mais j'employais le mot exhumer.
Parce que c'est une expérience d'enfance où vous avez déterré des poupées, jouant avec des poupées, les habillant, les recouvrant.
Comme j'étais fasciné par les enfants, j'étais fasciné par les poupées de mes sœurs, et on me faisait comprendre qu'un petit garçon, c'était les années 50, hein, il y avait pas encore le mari de Barbie ou tous ces soldats, ces flics et tout ça. Donc, je sentais que je devais pas trop toucher aux poupées de mes sœurs. Et une fois, un miracle, un baigneur, donc le baigneur de ma grande sœur, Hélène, c'était un baigneur en celluloïde, c'est très fragile, et quand ça tombe, ça se casse. Et donc le corps s'est retrouvé en 1000 morceaux à mes pieds, et j'ai eu un instinct, tout de suite, de ramasser la jambe, que j'ai enveloppé d'un morceau de tissu, parce qu'à la maison, il y avait toujours du schmatès, du tissu, parce qu'il y avait un petit atelier. Et donc, il y avait toujours du tissu. Donc, j'ai eu l'instinct de ramasser cette jambe et de l'enrouler de ce bout de tissu. Et c'était ma poupée. Je m'étais, grâce à cet interdit, grâce à cette transgression, j'ai créé ma poupée. Et une chose très bizarre que j'ai du mal à m'expliquer encore, de temps en temps, je les enterrais. pourquoi, je ne sais pas. Et après, avec le temps, je cherchais le lieu où je les avais enterrés. Des fois, je ne trouvais plus le lieu, j'avais oublié où je les avais enterrés. Et de temps en temps, je les retrouvais. Et il y avait de retrouver donc la poupée, 2 ou 3 mois après, et j'étais déjà fasciné par la transformation de la matière. Ça veut dire, elle était déjà un peu pourrie, elle sentait un peu le moisi, et déjà il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup dans cette découverte. L'odeur et la transformation, un peu méconnaissable. Qu'est-ce qu'une poupée ? C'est quelque chose d'étrange. C'est quelque chose de l'ombre. C'est quelque chose de la terre. C'est quelque chose de l'origine. C'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de paternel. C'est quelque chose d'interdit. C'est quelque chose de Dieu. C'est quelque chose de lointain. C'est quelque chose sans yeux. C'est quelque chose d'animal. C'est quelque chose d'oiseau. C'est quelque chose de silencieux. C'est quelque chose d'éternel. C'est quelque chose de boue. C'est quelque chose de caillou. C'est quelque chose de végétal, quelque chose de cruel, quelque chose de l'enfance, quelque chose de la joie, quelque chose de cri, quelque chose de muet.
Le plus beau commentaire de ce texte, Michel Nedjar, est sans doute ici le silence qui l'a fait naître. Ce texte, c'est un passage d'un entretien avec Alain Weiss sur France Culture en 1996. Et je signale aussi que la magnifique musique que nous entendions avec ce poème est une musique qui s'appelle « Pour Aline » de Arvo Pärt. Là, j'ai envie de poser une question à Jean-Michel Beaur. Ce passage, cet entretien, ce poème, d'une certaine manière, de 96, c'était il y a 20 ans déjà, 10 ans avant les poupées Pourim. Tout est déjà dit, et pourtant cette œuvre, toujours en mouvement, est aujourd'hui complètement différente. Jean-Michel Beaur.
C'est difficile d'avoir un commentaire après avoir entendu ce très beau poème. La poupée, c'est finalement l'universel, quoi, chez Michel Nedjar. C'est ce qui touche vraiment à l'universel pour lui. Et cette émission qui avait été faite avec Alain Weiss, justement, c'était sans doute à un moment assez de bascule, finalement, dans l'œuvre de Michel, entre la période précédente et ce qui va donner lieu à ces poupées beaucoup plus vivante, beaucoup plus joyeuse, qui amènera à Pourim dans les années 2000.
2000-2005. Alors, on a entendu ce poème de vous, ce poème Michel Nedjar, et j'ai pensé à un autre poème de Louis-René Desforêts qui dit « Que jamais la voix de l'enfant en lui ne se taise, qu'elle tombe comme un don du ciel offrant aux mots desséchés l'éclat de son rire, le sel de ses larmes, sa toute-puissante sauvagerie. » Et j'ai l'impression que ce poème s'applique non seulement à votre œuvre, mais aussi à vous, en tant que personne, Michel Nedjar.
Écoutez, tous les matins, quand je me réveille, j'ouvre les yeux, je vis dans mon atelier, je vis sur le chantier. Et tous les matins, quand je me réveille, que je regarde tout ce que j'ai autour de moi, j'ai le monde entier autour de moi, parce que je ramasse beaucoup de choses dans mes voyages. J'ai le monde entier. Et je me dis, c'est extraordinaire, c'est ce que j'ai voulu depuis mon enfance. Ça n'a pas été facile. Je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées, les morts et les vivants, pour m'avoir aidé aussi. C'est sans arrêt des mains tendues. Et à chaque fois, ces rencontres, vraiment ces rencontres, aussi, elles sont là aussi dans mon atelier.
Je peux ajouter quelque chose.
Jean-Michel Bourg.
C'est aussi une sorte de représentation du monde, l'atelier. C'est-à-dire que c'est une sorte de cosmogonie, de complétude. C'est à la fois le monde de l'atelier du père et le monde des puces de la grand-mère. Tout y est, finalement. Vous avez les outils du tailleur, vous retrouvez les perches, les cintres, les ciseaux, bien sûr. Tout est... C'est effectivement une représentation du monde. Vous avez évidemment des milliers d'images sur les murs, de cartes postales, des voyages, d'idoles, d'ex-voto vues au Mexique.
De citations.
C'est une l'universalité dont je parlais tout à l'heure à propos de la poupée qui est là dans cet atelier, absolument, qui est une caverne évidemment.
Vous parlez des vivants, vous parlez des morts, et j'ai très, très sensible dans l'exposition Présence qui a lieu actuellement au Musée d'Art Histoire du Judaïsme à une petite poupée qui se trouve en bas, dans la salle du bas, dans cette grotte, qui est la trace d'un de vos pèlerinages à Auschwitz, Michel Nedjar.
En effet, en 2000, le mémorial de la Shoah qui organise justement des pèlerinages ou des voyages, comme oui. On veut. C'est toujours difficile, voyage. Et donc, je me suis inscrit, j'ai invité deux adolescents. Je voulais emmener deux adolescents avec moi, donc un neveu et une jeune fille, Vita. Et on a fait ce voyage dans une journée avec un ancien déporté. C'était au mois de janvier. Il y avait énormément de brouillard, il neigeait un peu. J'allais pas me plaindre, là. J'avais pas me plaindre. Quand je pensais à eux, je me disais qu'ils étaient presque nus. Et donc, ce déporté nous a montré, nous a expliqué. Et à un moment donné, on arrive devant ce qui reste de la chambre à gaz, qui a été, je pense, détruite avant le. Ils ont détruit la chambre à gaz avant de partir, les nazis. Et moi, j'ai laissé passer. Donc, on était une vingtaine et je me suis retrouvé tout seul. Et j'ai une manie, j'ai une obsession, je ramasse des cailloux partout où je vais, dans un lieu, quand il y a un lieu très fort, ou un lieu spirituel, ou un lieu où il y a eu quelque chose, je ramasse des cailloux, j'ai plein de cailloux dans mon atelier. Et là, j'ai ramassé donc deux cailloux, je les ai mis dans ma poche, et je suis rentré avec ça à Paris. Et quand je les ai sortis dans mon atelier, sur mon chantier... Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais je suis complètement fou. Je ne m'étais pas rendu compte. Et donc, je les ai mis dans un sac en plastique. Et j'étais prêt à retourner à Auschwitz pour les remettre, ou les mettre au Père-Lachaise, au mur des Confédérés. Mais je n'avais pas quoi en faire. D'habitude, je sais quoi faire de ces cailloux. Donc, je les ai mis dans un sac en plastique pendant 2 ans sous mon lit. Et un jour... En faisant justement ce que j'appelle mes coudrages, mes poupées coudrées, je me suis dit, je vais faire un reliquaire, quelque chose qui ressemble à un reliquaire. Donc j'ai mis ces cailloux dans un tissu très simple et j'ai cousu ces cailloux. Je peux dire ces cailloux, disons ce tissu, et j'ai fait un petit reliquaire. Et Je me suis dit, il y a un seul lieu où je peux donner. Je peux pas vendre ça, je peux pas exposer ça. C'est pas possible. Je l'ai offert au musée d'art et d'histoire du judaïsme pendant la donation que j'ai faite au musée.
Dans ces temps, je viens de parler de l'enfance, je viens parler de la mémoire. Et tout cela parle du temps qui passe, de ses différentes qualités, de ses différentes couleurs, différentes tonalités. Et je pense au texte de l'Ecclésiaste que cite d'ailleurs Nathalie Azan-Brunet dans ce très beau petit livre qui accompagne l'exposition, Poupée Pourim. Et le texte dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Et je me suis demandé, et j'ai envie de rajouter un temps pour coudre, mais un temps pour recoudre. Avez-vous le sentiment, Michel Nejjar, que les blessures, les vôtres et celles des autres, se sont peu à peu recousues? Les poupées sous cette forme ou sous d'autres auront-elles ce pouvoir de réparer le monde?
Je n'ai pas cette prétention de réparer le monde, hein, vraiment, mais j'ai recousu. J'ai recousu, on voit, malgré tout, on voit la cicatrice. Le métier de tailleur, donc j'ai appris à coudre, et je sens que justement, avec le nouveau, les nouvelles poupées, les nouvelles choses qui arrivent, ce que je couds aussi les images, toutes les images que je ramasse, ce que j'appelle les coudrages, coudre tout ça, mettre tout ça ensemble. Réparer le monde, déjà je me suis un peu réparé, un tout petit peu. Malgré toutes ces catastrophes, ce qu'on entend tous les jours, bien sûr que j'aurais un idéal de réparer, mais ce n'est qu'un idéal. Mais je recouds et grâce à cette couture, je couds aussi mes amitiés. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comme là, ma rencontre avec Jean-Michel Bourg, ma rencontre avec Nathalie, votre rencontre. Moi, tout ça, ça fait partie de des choses que je mets ensemble, que je couds. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas conceptuel. C'est tisser la toile de mon existence, mon jus d'existence. Il est fait avec tout ça. Bien sûr que je voudrais bien recoudre le monde. Le petit tailleur voudrait bien recoudre le monde. Mais je me méfie des costumes sur mesure. Je me méfie énormément.
Merci, Michel Nejjar. Merci Jean-Michel Bourg pour cette rencontre, ces rencontres passionnantes que nous avons déjà inaugurées quand nous sommes venus avec Françoise-Anne Ménager dans votre atelier où vous nous avez montré un petit peu de vos secrets, des coulisses de votre création. Rencontre que les auditeurs pourront poursuivre en visitant l'exposition Présence. Et là, je sens qu'on a eu une rencontre avec un peu de votre présence aussi, et vous aussi, Jean-Michel. Présence qui, je rappelle, se tient au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 23 octobre prochain. Lundi 3 octobre, lundi qui vient, au soir, commencera pour toutes les communautés juives, à travers le monde, la fête de Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An juif. Et au nom de toute l'équipe de Talmudic, je souhaite à tous les auditeurs une nouvelle année de bonheur, de douceur, de joie, de santé, de rencontres, de créativité et de paix. Shana Tova Umetuka. Encore merci Michel Nejjar et Jean-Michel Beaureau. Ce fut un grand plaisir.
Merci.
Merci aussi. C'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Waknin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son Philippe Palares, à la réalisation, comme toujours, Dany Journeau. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous, Shana Tova, bonne année et à la semaine prochaine.